Le programme qui va suivre vous est présenté par le Centre missionnaire Philadelphie sur Avenue de la Science, Kinshasa Gombe. Entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs.
Au nom de Jésus, amen. Que Dieu soit béni. On peut l'acclamer, pourquoi pas. Lisez avec moi ces trois portions des Écritures. La première dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous partons du verset 4 jusqu'au verset 8e. Jean chapitre 12, du verset 4 au verset 12e. Une femme est en train d'offrir un parfum de grand prix, de manière un peu prophétique, pour symboliser l'ensevelissement du maître. Et quelque chose se passe à ce moment. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il est dérangé. Comment il peut accepter de telles choses? Il disait cela non pas qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Nous lisons aussi Matthieu chapitre 26. Et là nous lisons du verset 6 au verset 10. Matthieu 26. « Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit les parfums sur sa tête. Les disciples voyant cela, Matthieu a parlé des disciples, mais Jean montre que c'est plutôt pas tout le monde, mais c'était plutôt l'attitude de Judas. S'indigner et dire: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner les prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Alors nous allons au verset 14 jusqu'au verset 16. « Alors, l'un des douze appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs, choqué par ce qui vient de se passer. » Peut-être qu'il y pensait déjà, mais là ça a été l'élément déclencheur. Il dit: « Que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. » Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Nous lisons aussi 1 Samuel au chapitre 1er. 1 Samuel au chapitre 1er, nous partons du verset 6 jusqu'au verset 16. La rivale d'Anne lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu point? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi. Versets 1 à 4, Jéhovah dit ces choses glorieuses. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Seigneur Nazaya, yo. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. J'aime le verset 3, car je suis ton Dieu. Le salut d'Israël, ton sauveur. Waouh, j'aime la suite. Je donne l'Égypte pour ton rançon. Et l'Éthiopie et Saba à ta place. Il est prêt à sacrifier des gens pour toi. Et j'aime encore le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Et parce que tu es honoré. Et lui-même dit: parce que je t'aime. J'aimerais que tu saches, Dieu m'aime. Aide-moi à dire à ton voisin: je ne sais pas te concernant, mais moi, Dieu m'aime. La version française courante dit « Tu comptes beaucoup à mes yeux et je t'aime. » La version parole de vie dit « Je tiens beaucoup à toi. Tu m'es précieux et je t'aime. » La version Tob, traduction œcuménique de la Bible, dit « Tu vaux cher à mes yeux. » J'aimerais dire « Nami soanzambe nanganaza primangondote. » Je vaux cher. Je vaux cher. Ah, j'aimerais le dire encore aux yeux de mes dieux. Je n'appartiens pas au Wenzabitoula. Ah, ou les Thompson qui a commencé à coûter 10 000 le matin. À 18 heures, ça coûte 1000. Moi, je garde ma valeur. Je vaux cher à ses yeux. Dans Zacharie chapitre 2, verset 8, voulant faire comprendre à Israël ce qu'Israël représentait devant ses yeux, il dit, vous êtes la prunelle de mon œil. Vous êtes la prunelle de mon œil. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Français courant dit, quiconque vous attaque, s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. Soyez conscient de cela. Et si vous êtes conscient de cela, quels que soient ces deux types de personnes qui se présenteront sur votre route, vous garderez la paix et la quiétude. Et parmi ces personnes à rencontrer, et je prie que Dieu les place sur votre chemin s'ils ne sont pas encore, ce sont les Judas Iscariotes. Matthieu 26, 6 à 10, ainsi que Jean 12, 4 à 8, que nous avons lu, nous les présente et nous les montre, jouent un rôle apparemment négatif à côté du maître. Et dans ces rôles négatifs, nous voyons trois choses qui ressortent. Qu'ils ont fait au maître, mais qu'ils nous font aussi comme ils ont fait au maître. La première des choses, les Judas sont à côté de nous, partageant notre intimité, mais travaillant contre nous de manière cachée. À côté de nous, faisant partie de notre équipe, mais travaillant contre nous. Combien quelquefois c'est apaisant de savoir que la critique vient de loin. De savoir que les mauvaises langues, les mauvais propos viennent de loin. Mais que c'est dur d'avoir quelqu'un qui fait partie de son précaré. Qui commence à dire aux autres, pourquoi a-t-on offert ces parfums? Non seulement que lui, il les pense, mais il veut communiquer cette gangrène tout autour. Vous ne trouvez pas qu'il est dépensier? Il est égoïste. Pourquoi il accepte cela? Ah, je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Pour que les Judas qui sont à vos côtés ne restent plus cachés. J'aimerais le déclarer pour les enfants qui sont de moi que la saison des masques est finie. Leurs masques tomberont. Et même quand ça ne tombera pas, ils poseront des petits actes qui feront qu'on puisse les reconnaître. Tu reconnaîtras dans cette domestique ce qu'il est et qu'il cache. Tu reconnaîtras dans cette bonne ce qu'elle est réellement et qu'elle cache. Parce que ton Dieu, mon Dieu, a décidé que la saison de Judas est finie. Ils vont se trahir. Tu reconnaîtras dans ses collaborateurs, là où tu travailles, celui qui est contre toi. Tu feras. Il aura ouvert un mail où il avait écrit contre toi. Il aura oublié de fermer. Il viendra te donner l'appareil. Et tu liras, oh, c'est ce qu'il partage. Et tu sauras qui il est. Si quelqu'un croit, c'est là qu'il m'aide à dire amen. Amen. Je suis venu le déclarer, la saison de faux est finie. La saison de porteurs de masques est finie. Nous les reconnaîtrons parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Les Judas sont des lâches et des hypocrites. Ils n'ont pas le courage de leurs opinions. Ils ne nous disent jamais les choses en face. Même quelquefois quand nous demandons leur opinion, ils sont bavards derrière notre dos. Judas, viens me dire si tu n'as pas apprécié. Viens me dire, maître, pourquoi tu as accepté cette offrande? Pourquoi? Non, il ne va pas dire au maître, mais il parle tout autour. Il veut faire de son opinion une opinion que plusieurs rejoignent. Mais j'aimerais dire à Judas, tu resteras seul. Tu mourras de ton propre venin. Les Judas sapent notre autorité, nous amoindrissent aux yeux des autres. Jean 12, 5 nous montre le message que Judas avait communiqué, non seulement à la femme, mais aux autres par sa réaction. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Ce qu'il veut dire, c'est un gaspilleur, ces messieurs. C'est un égoïste. Quelqu'un centré sur lui-même et sur ses propres besoins. C'est un mauvais chef, un mauvais leader. Voilà comment nos Judas travaillent. Deuxième caractéristique de nos Judas. Les Judas nous trahissent. C'est-à-dire, ils violent l'engagement de loyauté qu'ils ont pris avec nous. Les Judas nous abandonnent au détriment de ceux qui nous veulent du mal. Les Judas trompent notre confiance. Les Judas sont infidèles. Les Judas sont avec nous apparemment, mais ils sont contre nous. Être trahi, ça fait très mal. Être trahi, ça vous détruit. Ça vous détruit parce que vous vous dites, comment ai-je pu lui faire confiance jusqu'à ce point? Je lui ai ouvert le cœur jusqu'à ce point. Et voir cette personne se détourner. Matthieu 26, 14 à 16 dit, alors l'un des douze appelé Judas alla vers les principaux. Remarquez, ce ne sont pas eux qui l'ont appelé. C'est lui qui a fait les mouvements vers eux. Et il dit, que voulez-vous me donner si je vous les livre? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. J'aimerais que tu saches, quelqu'un est en train de voir comment t'es livré. Il travaille pour cela. Il met son intelligence, ses moyens, ses relations. Comment faire? Mais je suis venu dire, si tu as Dieu, les Judas de ta vie ne réussiront jamais. Troisième caractéristique, attaché aux Judas. Les Judas travaillent toujours en deux temps. Nos Judas, de la même manière, ils ont travaillé avec le maître. Ils travaillent toujours en deux temps. Dans un premier temps, de manière cachée. Mais dans un deuxième temps, ils finissent toujours par se révéler. Quand il est allé prendre les pièces d'argent, c'était caché. Il n'a pas dit, je vais aller les trahir. Il n'a même pas partagé ce projet avec quelqu'un. Insatisfait, fâché, pas d'accord avec le maître, il s'est tué. On a vu simplement se retirer. Où il est allé, personne ne savait. Luc 26, 47 à 48. Comme Jésus parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva. Avec une nombreuse foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. D'abord de manière cachée, et puis il ne se cache plus. Il a la tête d'une délégation. Des gens armés d'épées, des gens armés de gourdins, qui est devant les disciples du maître? Qu'est-ce qu'il fait avec ces groupes? Il donne même un signe de ralliement. Certains disent, est-ce que la trahison de Judas était nécessaire? Vous savez, les gens ne connaissaient pas les habitudes de Jésus. C'est quelqu'un qui aujourd'hui était ici, et demain il était là. Et ils avaient besoin d'un guide. Quelqu'un qui pouvait les aider à aller l'attraper facilement. Trois choses étonnent dans la manière dont Jésus a géré Judas. Et dont nous devons aussi gérer nos Judas. Trois choses. La première, Jésus connaissait son côté mauvais et mal intentionné. Il était au courant. Certaines personnes, ça pense qu'elles ne sont pas au courant. Des fois, Dieu nous a dit et nous nous taisons. Nous voyons jusqu'où tu vas aller. Vous ne pensez pas que Dieu nous parle? Jean chapitre 6 au verset 70, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas su au moment de la trahison, il le savait déjà. Il s'était, il savait même qu'il volait l'argent. Judas pensait que Jésus ne le voyait pas. Il voyait Jésus exercer la parole des connaissances auprès de la femme samaritaine. Et Judas avait l'impression que ses paroles de connaissance marchent avec tout le monde, mais pas avec moi. Des fois, Judas tremblait quand Jésus commençait à exercer. Il dit, aujourd'hui, ça va m'attraper. Il dit, mais j'ai l'impression que son radar n'évolue pas dans mon rayon d'action. Il connaissait tout. C'est pas parce qu'il ne disait rien. Deuxième réaction de Jésus devant Judas. Jésus ne l'a pas arrêté. Il a posé deux actes apparemment étranges. Étranges. J'aime ça. Matthieu 26, verset 50. Quand Judas vient conduisant une foule armée de gourdins, d'épées, Jésus l'appelle d'une drôle de manière. Il appelle mon ami. Mon ami. J'aimerais vous dire, le Jésus que je prêche, le Jésus de la Bible, ce n'est pas un hypocrite. Ce n'est pas quelqu'un qui t'appellerait ce qu'il ne pense pas. Ce n'est pas quelqu'un qui ne dirait pas autre chose. Il appelle mon ami. Mais quand il dit ami, il ne veut pas forcément dire nous avons des relations particulières. Nous avons de l'empathie l'un vis-à-vis de l'autre, de la sympathie. Parce que quand il voulait dire ami, il voulait l'appeler ami de mon destin, ami de mon devenir, ami de mon futur. Toi, un autre terme attaché à ami, ça veut dire aussi catalyseur. Celui qui favorise une relation, une réaction. Il veut dire toi, tu participes à mon défini. Il est étonnant. Et c'est là où je trouve le mystère de la parole de Dieu. Là où Jésus dit de Pierre, arrière de moi, Satan, quelqu'un qui lui veut du bien, qui veut lui éviter le mal, il appelle Satan. Mais quelqu'un qui lui veut du mal, il appelle mon ami. J'aimerais vous dire, quelquefois les Judas sont plus importants que les Pierres. Les Pierres, il faut leur dire, arrière de moi. Mais les Judas, il dit, mon ami. J'aimerais dire, ami, trahissez-moi. Faites toutes ces choses sans le savoir. Vous m'amenez vers mon destin. Mon ami. J'aimerais te dire, cette personne qui te fait du mal, c'est ton ami. J'aimerais te dire, cet homme qui te laisse tomber, c'est ton ami. J'aimerais te dire, cette jeune femme qui te laisse tomber, c'est ton ami. J'ai jamais oublié. Avril 91, mon épouse peut s'en souvenir. Bon, je vais réveiller les morts. J'ai durant longtemps aimé une jeune fille. J'ai rêvé qu'elle devienne mon épouse. Elle semblait aussi s'intéresser à moi. Elle me voit à l'église là-bas, parlait assez bien, faisait un effort pour être présentable, mais ne connaissait pas chez nous. J'ai vu combien son attitude vis-à-vis de moi a changé le jour où elle arrivait chez nous. Parce que chez nous, c'était compliqué. Pas de clôture, mur de la maison, pas de couleur, pas de crépissage. Un grand ravin devant chez nous, de telle sorte que même les amis me posaient la question, des fois, à la bonne Roland, chez vous, il y a une piscine. J'ai dit oui, mais quand il pleut. Il y avait un grand ravin. Et souvent, on mettait un morceau de bois. Et les gens pour expliquer chez nous, nous sommes comme ça, les boulons, nous sommes comme ça, nous sommes. Si tu arrives là où il y a ces grands ravins, c'était chez nous. Elle a dit plus tard à une amie commune qu'on avait, elle a dit, les jours où je suis arrivé chez les Roland, j'ai vu que chez eux ne ressemblait pas à lui. Chez eux, ne lui ressemblait pas. C'est-à-dire, ne ressemblait pas au jeune homme que je voyais. J'ai jamais oublié avant qu'elle ne voyait, c'était le 28 décembre, elle devait aller en Amérique du Nord. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu me dis, est-ce que dois-je espérer? J'ai vu dans ses yeux qu'elle voulait dire que ça s'arrête. Mais elle a dit, je te dirai quoi plus tard? J'ai jamais oublié, Viviane peut se souvenir de ces jours. Parce que les jours où finalement elle m'a dit non officiellement, c'était un samedi, il y avait mariage. Le mariage finissait à l'église de la Borne et puis Viviane était avec sa sœur, maman Yvette, et son frère Olivier. Il semble qu'elle commençait déjà à remarquer le frère Roland. Moi aussi j'ai remarqué, mais bon. Je me disais, j'ai un dossier là-bas. Et puis, pasteur Kali, mon ami, qui commençait déjà à avoir des relations, m'a dit, cette famille va nous aider à aller. C'était pas très loin, c'était au palais du peuple qui devait avoir le mariage. Et juste avant que je le monte dans le véhicule, on m'a donné la fameuse lettre. Dans mon cœur, j'ai dit, je vais la lire après la manifestation, mais je voulais tellement connaître la suite. Je suis allé dans un coin, j'ai eu l'impression comme si... Je suis revenu dans le véhicule, j'étais sur une autre planète. Mon épouse me le dira plus tard, ces jours-là, tu nous as ennuyés. On cherchait de te parler, tu n'étais pas là. Naïk na matanga, maman. J'aurais voulu qu'elle s'arrête à me dire non, c'était son droit. Mais elle m'a méprisé un peu. Elle a dit trois choses. Premièrement, Roland, on n'est pas de la même classe sociale. La deuxième, elle m'a dit, Roland, je pars aux États-Unis. Toi, tu me suivras aux États-Unis à pied, par la nage ou par quel moyen? Je ne pensais pas qu'elle pouvait être dure et blessante. J'ai compris qu'elle m'a méprisé. Et la troisième, nous sommes trop différents. En 2006, je l'ai retrouvé aux États-Unis dans une église. Et je dois vous dire que je ne suis pas allé aux États-Unis à la nage. Mais je suis quand même arrivé aux États-Unis. Mais plus les années passent, j'ai dit merci qu'elle m'ait dit non. Sinon, j'allais rater cette merveilleuse dame. Et j'allais rater ces merveilleuses filles parce que je ne pouvais avoir ces filles, biologiquement parlant, qu'avec. J'ai dit merci au Seigneur. Autant j'ai pleuré ces jours d'avril, 91. Autant j'ai dit merci. Ah, il y a quelquefois des rejets qui sont des directions. Mon ami, je venais te dire, celui qui te fait du mal est ami de ton destin. Il n'a aucune idée, mais il te propulse vers quelque chose de glorieux. Ami de ma destinée, celui qui m'aide à devenir celui que je dois devenir, celui qui me facilite la tâche, celui qui m'aide. J'ai vécu cette scène. Mon épouse et moi, on venait se marier en 92, et puis janvier 93, il y a eu PIA. Je n'ai pas suivi cette histoire directement. Des amis communs m'en ont parlé. Quand il y a eu PIA, j'ai un monsieur qui habitait pas très loin de chez nous, vers les quartiers de Lausanne. Des militaires sont rentrés pour venir piller. Ils ont commencé à prendre des histoires. Il leur disait, laissez, personne ne voulait. Il disait, laissez. Les gens n'ont jamais su est-ce vrai ou faux. Ils étaient à trois. Il a compté, dit, un, deux, trois. Eh, pour rendre un gars service. Un gars, c'est un gars, batoumi, ça, beaucoup qui n'a bien opé déjà. Et tous ceux qui sortaient avec les histoires, quand ils ont entendu ça, les histoires ont commencé. Il dit, les féticheurs m'avaient demandé trois personnes. Si trois personnes me font du mal, ils vont mourir et moi. Eh, mais vous êtes à toi, beaucoup qui vous continuez. Les catalyseurs qui vous rendent service. Mon ami, ami de mon destin. Mais non seulement il a appelé ami, la deuxième chose, il a encouragé à faire ce qu'il devait faire. Matthieu 26, verset 50, non seulement il appelle mon ami, il dit ce que tu es venu faire, fais-le. Il ne l'a pas arrêté. Va jusqu'au bout de tes idées. Quelquefois, nous voulons arrêter les Judas, alors que derrière leur art se cache quelque chose de glorieux. Les Judas, ils vous font passer par des tourments. Les Judas vous amènent auprès de Pilate. Les Judas vous amènent auprès du Sanhédrin qui laboure votre dos. Les Judas vous amènent enfin qu'on vous crache. Mais j'aimerais dire, ça ne s'arrête pas là. Au-delà de cela, les Judas vous amènent vers la résurrection glorieuse. Et Judas vous amène à un endroit où la Bible dit, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Les Judas ont l'impression de gagner seulement la première mi-temps. Mais il y a une deuxième mi-temps. Ne vous laissez pas écraser par les Judas. Sachez que derrière eux, il y a un Dieu. Ma petite expérience de la vie m'a enseigné cette chose par rapport aux Judas. Je termine avec Pierre, avec plutôt Pénina. La première des choses, c'est que les Judas sont des fois et souvent nécessaires. Car des tremplins pour notre destin et notre devenir. Je ne dis pas de les chercher, mais laissez-les quand ils viennent. Deuxième chose concernant les Judas, ce sont des acteurs inconscients de notre éclosion et de notre percée. C'est-à-dire, ils travaillent pour nous en pensant faire le contraire. Troisième chose que j'ai appris concernant les Judas nous vaccinent et nous améliorent en faisant deux choses. Premièrement, ils tuent en nous la naïveté. Souvent, nous sommes trop naïfs. Il faut quelquefois les Judas pour que nous puissions savoir que tout peut arriver de n'importe qui. Mais deuxièmement, les Judas nous équipent d'une qualité, la prudence, que nous n'avons pas souvent, la prudence. David ne pouvait pas s'imaginer qu'il avait un Judas appelé Achitophel, son conseiller spécial, son conseiller particulier. Quatrième chose que les Judas nous apportent, les Judas nous trahissent, mais ne profitent jamais du produit de leur trahison. Laissez-le trahir. Il a eu les 30 pièces d'argent, mais remarquez, il n'en a rien fait. À la fin, il a fini par les jeter. Laissez vos Judas. Il est même prouvé que même sur le plan politique et sur le plan nation, les gens ne croient jamais aux traîtres. Parce qu'il dit, celui qui a trahi, trahira encore. Si quelqu'un vient vous trahir, il va ailleurs. Même ceux qui, vers qui il va, ils n'auront pas totalement confiance. Il dira, il est resté avec lui 15 ans. Il a fait ça, qui ne dit pas qu'il fera la même chose. Cinquièmement, les Judas qui pensent arrêter notre parcours s'arrêtent eux-mêmes toujours plus vite alors que nous, nous continuons notre parcours. Matthieu chapitre 27, verset 5, ainsi que acte 1, 18, nous montre que Judas s'est pendu. Il a eu à tomber. Il s'est rompu par le milieu du corps et tous ses entrailles se sont répandues. Lui qui a pensé arrêter le maître, lui s'est arrêté, mais le maître a continué. J'aimerais te dire, tu vas durer plus que tes Judas. Sixième chose, les Judas finissent toujours dans la solitude, manquant la confiance de ceux qui les ont achetés et incapables de renouer le contact avec ceux qu'ils ont trahis. Les Judas finissent toujours dans la solitude. Matthieu 27, verset 4, la Bible dit, « Judas dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. » Écoutez, la Bible dit, il lui répondit, « Qu'est-ce nous importe ? Cela te regarde. » Solitude. Il a trahi le maître, il ne peut plus retourner là-bas. Et même ceux vers qui il pense venir pour chercher un soutien, il les lâche. Mais le maître que nous servons ne nous lâche jamais. Septième chose que j'ai appris concernant les Judas, nous n'avons pas toujours besoin de nous occuper d'eux. Deux choses. Dieu et les temps s'occupent des Judas très bien. Laisse les Judas faire ce qu'ils peuvent faire. Tu as un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu capable qui sait contrôler tes Judas. J'aimerais en quelques minutes parler des Péninas que nous avons mentionnées dans Samuel, chapitre 1, verset 6 au verset 7. C'est une femme qui fait du mal à sa rivale. Nous en parlerons peut-être plus en profondeur la séance prochaine, plutôt la séance d'après parce que dimanche prochain, c'est un dimanche des Pâques. Pentecôte, pardonnez-moi, merci. Les Péninas ont quatre caractéristiques différentes de Judas. Des caractéristiques génériques. La première, c'est que les Péninas nous attaquent directement, de manière ouverte, contrairement aux Judas qui le font de manière cachée. Attaque. La Bible dit ça dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications, des propos pour l'amener à s'irriter contre Dieu. Les Péninas nous attaquent. Les Péninas nous choquent. Deuxième caractéristique des Péninas. Les Péninas profitent de ce que nous n'avons pas pour nous abaisser. Les Péninas nous connaissent. Elle n'a pas d'enfant, je vais l'attaquer sur ce point. Il n'a pas du travail, je vais l'attaquer sur ce point. Il n'a pas encore telle chose, je vais l'attaquer sur ce point. Troisièmement, les Péninas font de notre malheur leur sujet de joie. La mortifier. Faisait du mal. Et quatrièmement, les Péninas sont des stratèges. 1 Samuel 1, 7 dit, et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Quelquefois, Pénina s'est taisée, mais elle attendait simplement que Anne lève l'option d'aller à la maison de l'Éternel. La maison des solutions. La maison va parler à Dieu. Les contextes montrent que, un peu comme à la manière des quinoises, quand Anne disait je vais à la prière, Pénina disait bon, ça me la rappelle pas résulté, mon anakae. Abiso, ça me la rappelle, ton zoara zoara nabiso. Priez qu'on voit aussi les résultats. Nous, on ne prie pas comme vous, mais on n'a pas les résultats. On a les résultats sans prier. Chaque fois, le but c'était casser sa foi. Le but c'était la décourager. Le but c'était lui montrer que ton Dieu ne fait rien. Les Péninas. Mais j'aime cinq autres caractéristiques attachées aux Péninas. 1 Samuel 1, 2 nous révèle que les Péninas ont le plus, ont ce que nous n'avons pas. Et leur stratégie, ils ne veulent pas que nous puissions avoir. Péninas avait des enfants. Son bonheur, c'était ce qu'Anne n'en est pas. Elle voulait que Anne reste dans un statu quo. J'aimerais dire à quelqu'un, les souhaits de Péninas, Dieu ne va pas les satisfaire. Deuxième caractéristique de Péninas, 1 Samuel 1, 6 nous révèle trois choses. Les Péninas font de notre malheur leur sujet de joie. Les Péninas sont des stratèges, comme je dis. Elles ne nous attaquent pas n'importe quand. Lorsque nous voulons rechercher celui qui peut changer notre condition. Troisièmement, les Péninas nous poussent à douter de Dieu et à ne plus lui faire confiance. Ils dévaluent notre foi. Les Péninas aiment toucher notre self-estime. Ils nous abaissent. Ils ont comme une spécialité comment parler. Mais Samuel 1, 7 à 8 nous montre que les Péninas sont des voleuses de joie. Ils volent notre joie, notre quiétude et la joie de vivre. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu point? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Tristesse, manque de joie, incapacité de manger, non pas parce qu'elle veut, mais parce que quelqu'un pose des actes qui l'amènent là. Les Péninas vous disent à quoi ça sert de manger. Les Péninas vous détruisent au plus profond. Quatrième chose, 1 Samuel 1, 10, les Péninas sont quelquefois la base de nos progrès spirituels. J'aimerais dire, il y a des vies de prière que nous n'aurons pas sans les Péninas. J'aime ce que 1 Samuel 1, 10 dit, et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Le verset 12 même ajoute, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Il y a quelquefois des profondeurs que nous n'atteindrons jamais dans notre relation avec Dieu sans les coups de Péninas. Des fois, il n'y a pas mieux que les coups de Péninas comme des invitations dans le lieu de la prière. Des fois, il n'y a pas mieux que les moqueries pour chercher Dieu. Des fois, il n'y a pas mieux que tout ce que les gens disent de négatif pour chercher Dieu. Des fois, il n'y a pas mieux que l'adversité au travail pour qu'une vie spirituelle revienne. Des fois, il n'y a pas mieux une femme dit, je sais savoir que ça ne va pas avec mon mari au travail. Quand il retrouve la dévotion matinale. Quand ça va, se réveille, télé les infos du matin, et puis départ au bureau. Mais chaque fois, je commence à les voir vers 5h30. Là, ça y est, ça, mais je dis, ah! Il y a des combats. Il arrive des fois, Dieu nostalgique. Il aime vos rendez-vous d'intimité. Et il dit aux anges, peux-tu assembler la cala? Un démon va toucher ton chef. Allez! Mise en pied les trois jours! Rabbi Yolo Binini. Le Seigneur dit, Bilou Nando Lukayangot. Il arrive des fois, les ânes ne prient pas longtemps parce qu'il manque de Péninas. Quelquefois, les Péninas nous amènent à une profondeur que nous n'aurons pas en temps normal. Je termine en ce jour en disant une dernière chose. Les Péninas obligent les dieux cachés derrière nous à se révéler. Les Péninas font toujours que le Dieu qui est caché derrière nous se révèle. J'aime Anne a prié. Et le verset 17, l'homme de Dieu est venu dire, va en paix. Que le Dieu Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Et que ta servante, ça c'est elle qui réagit, trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette femme s'en alla, mangea et son visage ne fut plus le même. Mais j'aime surtout la fin du verset 19 et le début du verset 20. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'elle. La première fois que j'ai lu cette phrase, j'ai dit, Dieu est-il amnésique? Dieu a-t-il des fois des décalages, des souvenirs? J'aimerais dire, Dieu va se souvenir de quelqu'un. Il va le faire non pas à cause de toi, mais à cause des coups que l'on te donne. À cause des moqueries, à cause de tout ce que l'on... Dieu va dire, non, il est temps que je prouve qu'il est à moi. Il est temps que je montre qu'elle est de mon côté. Et Dieu se souvient. Seigneur, je lève ma main pour dire pour mes enfants, souviens-toi de quelqu'un. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et j'aime en terminant dire, les Péninas sont des parents indirects de nos Samuel. Samuel veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Mais je l'ai demandé à cause des coups. Je l'ai demandé à cause des moqueries. Ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, tous les enfants de Péninas sont restés des célèbres inconnus. Quelqu'un connaît-il un nom d'un enfant de Péninas? Mais l'enfant né des coups s'est appelé Samuel. Les jours où il est mort, il y a eu deuil national en Israël. Les fruits des coups. J'aimerais encore aller plus loin. C'est que le Pénina ouvre la porte de ce qui était fermé. Parce qu'après Samuel, Anne a eu encore 4 enfants. Des enfants qui ont aussi marqué l'histoire d'Israël. Mais je termine en disant, le Pénina, sans le savoir, sont les sources d'inspiration de notre chant. Quand Anne a eu un enfant à cause de Pénina, j'aime ce que Anne a déclaré. Finalement, quand elle a eu un enfant, elle dit, ma bouche s'est ouverte. Ma bouche s'est ouverte devant mes ennemis. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Anne priait l'Éternel et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Je suis venu déclarer à quelqu'un, la saison où ta bouche est fermée à cause de l'encendant de tes ennemis est finie. La saison commence où maintenant c'est au Pénina de fermer leur bouche et toi tu vas parler. Et j'aimerais te dire, quand Dieu va décider de te visiter, les Pénina vont se demander si c'est vrai. La première fois Pénina a vu Anne commencer à vomir. Elle a dit, yo, est-ce qu'il y a Sanzaka? La première fois, elle a vu Anne commencer à avoir des goûts bizarres. Elkana est consommé la manga sende. Elle dit, ma manga sende, ça c'est des grossesses nerveuses. Grossesses psychologiques. Elle a tellement désiré qu'elle croit la voir. Et puis voilà, Pénina a commencé à avoir un ventre gonflé. Non, c'est une grossesse psychologique. J'aimerais dire, laisse Pénina parler. Jusqu'au jour où Pénina a entendu d'une case. Nya! 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 J'aimerais te dire, quand Dieu te donnera ton Samuel, ne les garde pas en case. Sors et montre à Pénina. Montre à Pénina. Quand on était petit, quand les amis s'étaient moqués trop de toi, quand tu avais une chose, tu passais devant et tu leur faisais ça. Kaka, Bolobaki, je suis venu déclarer à quelqu'un, c'est ta saison de parler. C'est ta saison de t'élever.
Je suis touché.
Ce matin, j'aimerais être touché.
Je suis touché
par ta parole, par la louange, par chaque moment de ce culte. Je veux être touché. Je veux sortir de cet endroit en me disant, je suis touché. Oh.
Touché.
Là-bas,
oh. Je suis touché.